Jean, Jean, je vais reprendre la parole pour pas que tu aies à le faire.
Oui. Ah, t'es sympa. On
a eu la chance de voir le film il y a 4-5 ans à la Primob, à la médiathèque de Luc. Et je me rends compte, pas l'avantage, mais pas non plus la difficulté, même si c'en est une sûrement de parler de quelque chose sans avoir lu le support avant du film. C'est pour ça que je recommande encore maintenant de visionner le film après ses propos. Pour lui, c'était dur de parler de quelque chose qu'on palpe pas, l'infiniment petit. Et nous, on a eu la chance de voir le film et de l'écouter il y a 4-5 ans, c'est pour ça que c'est plus facile pour nous. Mais je me dis, après les propos, voir ce film, on va en découvrir encore plus et on va saisir un petit peu ce côté qu'on a parlé aujourd'hui tous les deux et puis peut-être avant, de non pas essayer de tenter de boycotter les choses. On ne peut pas boycotter l'infiniment petit. Comme tout à l'heure, ça a été un peu dit. Par contre, qu'on s'imprègne bien de l'idée que c'est à nous de décider vers quelle science on veut aller, vers quelle politique on veut aller, vers quelle démocratie on veut aller, vers quelle vie on veut aller, on gagnera plus certainement que de dire « je veux pas de la particule de carbone dans mon sandwich ». On n'arrivera jamais, très certainement, pas à prouver qu'elle y ait à tel endroit du jambon. Ça va être très difficile. Par contre, dire à la... Alors là, je ne fais pas de la politique politicienne, même si on a parlé un peu de politique et Julien en a parlé, de dire à des futurs élus, à des élus ou à des organismes chargés de notre santé, de dire là, nous, on veut prendre le pouvoir et on veut avoir le pouvoir de dire non, on se calme. C'est pas en 48 heures qu'on va nous faire une nouvelle structure, une nouvelle molécule. C'est dans 2-3 000 ans, revenez nous voir et on aura eu le temps de perdre un doigt, muter génétiquement et en effet, on pourra voir ce qui s'est passé comme avec un Néandertal, un Cro-Magnon, un Homo sapiens, etc. Donc, je pense que si on devait faire quelque chose, c'est plus dans nos comportements bestiaux de dire « j'en veux pas, c'est pas bon, c'est nul », mais de philosophiquement dire « là, on demande la parole et on demande à ce que ces choses-là soient arrêtées au niveau d'un État, d'une région, qu'on soit plus politique que réactionnaire, dans le sens d'avoir une réaction épidermique. Je pense qu'on est plus écouté. J'en veux pour preuve, et Julien en parlait un petit peu tard, je ne vais pas prendre sa place pour répondre, hein. Avec les OGM, où Julien dit qu'on a un peu gagné, au niveau du monde, on a un peu beaucoup perdu. Et c'est vrai qu'au niveau de la France, on a un petit peu gagné. On ne peut pas dire qu'on a gagné au niveau du monde. L'Argentine, les OGM, les États-Unis nous inondent. Mais c'est vrai que la France, par le biais de quelques énergumènes lanceurs d'alerte et refuseurs ou désobéisseurs civils, on a pu, avec les politiques, il faut leur tirer le chapeau. Les mecs, vous nous avez obéi. Ce qui voudrait dire qu'on peut avoir, faire obéir des politiques à des idées, à des valeurs que l'on porte assez nombreux, même si les faucheurs d'OGM, par exemple, pour prendre ces gens-là, n'étaient pas des milliards de personnes sur la planète ni en France.
Moi, je ne dirais pas faire obéir, comme tu viens de le dire, mais simplement les remettre dans leur rôle de politique. Le politique, il s'informe, il voit l'état de l'opinion et il réfléchit à dire « oui, je vais dans ce sens » ou il dit « non, voilà pourquoi je ne peux pas aller dans ce sens de décision ». Mais il a repris son rôle, le politique, sur ce petit sujet et pour peut-être 10% de ce sujet. Voilà. Mais là, maintenant, c'est pas encore le cas pour les nanotechnologies.
Je finirai. Toi, tu parlais de 2006, 2007, 2008, commencer à en parler un petit peu, Grenoble 2009 ou 2008, c'est récent, mais après on a eu un petit trou, on n'en parle plus depuis 4-5 ans. Et j'ai entendu sur France Culture la semaine dernière un sujet sur les nanotechnologies.
Ça revient.
Donc, faut pas diaboliser non plus, même si Jacquard nous dirait s'il était vivant, il dirait dépêchons-nous parce que j'ai pas de temps à perdre, mais il est mort entre temps. Et je verrai pas ce qui va se passer de bien, mais bon, il le verra pas, mais comme nous on le verra pas non plus, mais. Je pense qu'on peut aller, en effet, vers des choses intéressantes pour nous.
Si vous permettez, moi, je vais juste compléter un petit peu mon propos, en fait. Parce que, donc là, on a parlé pas mal des nanomatériaux, en particulier, c'est légitime. Puis c'est certainement, jusqu'à présent, ce que les nanotechnologies ont produit de plus tangible. Et puis massif, hein, déjà, hein, je parlais de 500 000 tonnes qui sont écoulées sur le marché en France, donc c'est quand même pas négligeable. Dans le film, justement, à peu près au tiers du film, il y a une philosophe, Bernadette Basso de Vincent, parce que le discours philosophique est beaucoup utilisé comme fil conducteur du film. C'est pour moi d'ailleurs une des découvertes de ce film, cette philosophe, Bernadette. Il y a un de ses livres qui est là, Le vertige de la technoscience. Très bon ouvrage pour comprendre ce que sont les technosciences. Après, je ne partage pas son positionnement un peu optimiste de dire bon, allez, après tout, tout le monde a bien conscience des problèmes et on va dans le bon sens, on va vers de la régulation et tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je ne suis pas sûr. Mais je comprends pourquoi elle dit ça, parce qu'elle-même, elle a des budgets alloués par l'Agence fédérale pour la recherche et une carte blanche pour faire de la recherche là-dessus. Et elle doit un peu ménager la chèvre et le chou pour son gagne-pain, c'est normal. Mais c'est une très bonne philosophe, pareil. Et dans le film, elle est redoutable. Et donc, ce qu'elle dit à peu près au tiers du film, c'est bon, après tout, les nanoparticules, on connaît, c'est une problématique qu'on connaît. Il y a des risques environnementaux, sanitaires, tout ça, bon, il y a des organes de régulation, c'est pas le pire. En fait, donc, les nanos, ça s'arrête pas là. Je parlais au début de choses un peu extrêmes, là, des nanorobots et tout. Le projet nanotechnologique ne s'arrête pas à produire des nanoparticules pour faire, donc, comme monsieur Hall a des lunettes qui s'opacifient à la lumière ou qui, des choses comme ça, des choses qui sont pratiques. Ça ne sert pas qu'à ça, ça ne sert pas qu'à faire des recettes qui sont plus mauvaises. 60% à peu près du budget de la recherche va vers les technologies de surveillance. Alors là, c'est à peu près 2% pour la médecine. Donc, faut pondérer toujours. Alors, ce qu'on connaît le mieux, ce sont les puces RFID, hein. Radio Frequency Identification Device. C'est une très 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 vieille technologie, hein, qui date de la Seconde Guerre mondiale. C'était des balises à l'époque qui étaient mises dans les avions américains pour éviter les tirs collatéraux, ça, comment on dit ? C'est-à-dire ne pas tirer sur son copain, quoi, hein. Donc chaque avion américain avait ses balises. Friendly fire. Et donc,
Friendly fire.
Yeah. Donc c'était déjà c'est la première utilisation qui a été faite des Radio Frequency Identification Device, donc appareil d'identification par radiofréquence. Aujourd'hui, les RFID qu'on produit sont de taille nanométrique. On peut les disséminer partout. Et elles sont disséminées partout. On les produit par milliards. Hein. On peut en faire de quelques nanomètres. Je suis désolé, parce que c'est vrai que je ne pourrais pas vous dire le dixième de ce que je pourrais vous dire.
Il y a ce petit bouquin, là, justement, sur les RFID.
Oui, PMO, pièces et main-d'œuvre, que je connais bien, avec qui j'ai bossé un petit peu jusqu'à ce qu'on se fâche. On produit un très très bon travail et sur la technopole grenobloise. Qu'est-ce que c'est qu'une technopole ? Qu'est-ce qui se passe à Grenoble ? Qu'est-ce que c'est que Minatech et tout ça ? Et aussi, c'est vraiment leur cheval de bataille, c'est la surveillance. Les technologies de surveillance, les RFID. Après, sur certaines choses, ils ont justement tendance parfois à boire la parole des scientifiques comme du petit lait, c'est-à-dire quand ils parlent de possibilités de contrôle de la pensée à distance ou qu'on va pouvoir lire dans votre cerveau à distance. On n'en est pas là, et loin s'en faut, mais on peut à distance brouiller vos pensées.
Déjà qu'elles n'ont pas besoin de ça.
On prend un petit verre.
C'est bon pour qui ? Très
d'alcool, là. Mais voilà. Et puis de toute façon, le soft power, hein, pour la propagande, je crois qu'elle est quand même aujourd'hui à un niveau de subtilité inouï. On arrive à faire vibrer toute la planète sur un même événement, que ce soit le 11 septembre ou un match de foot. Donc je crois qu'on n'a pas besoin des nanotechnologies pour nous gouverner, comme des bons moutons que nous sommes. Donc, ça aussi, ça fait partie des nanotechnologies, donc les RFID. Donc on en met partout. Pourquoi ? Par exemple, dans les pneus de voiture, parce que certaines voitures avec des ordinateurs de bord, comme elles en ont toutes maintenant, elles en ont plusieurs même,
pour connaître en temps réel, comme on dit, la pression des pneus, bah, il n'y a pas d'autre moyen que de mettre des puces dans les pneus. Donc, bah, voilà, hein, innovation, à quoi ça sert, hein, des nouvelles propriétés, c'est intéressant. Ou bien dans des chaussures de jogging pour, après, avec son iPad ou son iPhone, pouvoir connaître sa foulée, son machin.
Sur les pare-brises, dès qu'il pleut, hop, les essuie-glaces se mettent en route.
Voilà. Il y en a partout. Il y en a dans tous les livres, il y en a dans tous les... Oui, pour dans les bibliothèques, dans les librairies.
Plus ça gérer fidèle les bibliothèques,
ouais. Les badges, vous savez, quand vous allez à un séminaire, un machin, un truc, il y a souvent maintenant une puce RFID dedans. Comme ça, en plus, on peut monitorer, comment dire, on peut savoir où vous êtes, comment se déplacent les gens dans un hôpital ou ailleurs, ou dans un lycée,
dans un
supermarché. Les premières puces RFID qu'on avait mises dans les supermarchés, c'était sur les rasoirs jetables, parce que c'est l'article le plus volé. Donc on a commencé d'abord par les mettre là. Maintenant, ils sont dans tous les produits. Mais je sais pas, par exemple, le Golden Gate là, aux États-Unis, ce magnifique pont, il y a maintenant des millions de puces RFID dessus pour pouvoir connaître la tension des câbles, les risques de rupture éventuelle, etc. Dans un Boeing, il y en a aussi comme ça, partout, pour
Donc dans un Airbus aussi.
Alors on rêve par rapport à ce qui disait là, les avions qui se perdent et tout ça. Pas celui, le dernier qui s'est perdu, mais le précédent à Rio là, qu'on ne retrouvait pas non plus.
C'est l'Airbus.
Il y a eu quelqu'un que j'avais entendu sur France Inter qui disait que malheureusement on n'avait pas encore des smart dust, donc des poussières intelligentes, qui seraient des puces RFID, qu'on pourrait disséminer dans l'océan, dans l'atmosphère, sur des cultures, sur un champ de bataille. Enfin, on peut imaginer des millions d'applications.
Dans les colonnes maternelles.
Partout, voilà. Et qui seraient donc des capteurs, hein, capables de prendre de l'information de leur environnement et puis de transmettre cette information vers des centres de contrôle pour pouvoir savoir un peu ce qui se passe. Donc ce type à la radio disait, malheureusement ça n'existe pas encore, parce que sinon on aurait su où il était cet avion. En fait, c'est là que c'est marrant, parce que, moi ça m'amuse, il y a ce qu'on appelle des verrous technologiques ou des verrous théoriques qui font qu'entre le rêve et la réalité, parfois il y a des obstacles, hein, des verrous. Et en l'occurrence, les Japonais travaillent à fond là-dessus. C'est bah, comment on fait pour qu'une information dans une puce, un maillage énorme de puces, hop, celle-là elle capte quelque chose, comment elle fait remonter l'information de puce en puce, et comment on peut après garder la localisation, etc. Pour l'instant, on ne sait pas le faire en fait.
Il faut demander aux fourmis. Hein.
On s'inspire énormément de la nature pour faire ce genre de truc, ça c'est évident. Quand on fabrique aujourd'hui, l'armée française fabrique des drones. Donc c'est pour vous dire, voilà, on n'est pas seulement dans les nanoparticules, et c'est les nanotechnologies aussi. Quand on fabrique des drones qui doivent avoir la taille d'une libellule, on l'appelle ce drone la libellule, que le fantassin pourra avoir dans son sac, qui doivent pas coûter plus de 100 euros pièce. C'est le cahier des charges. Et donc qu'ils puissent prendre cette libellule, l'envoyer, et puis avoir donc comme ça un œil déporté, puis de savoir dans ses lunettes, qui lui disent où est l'ennemi, etc. Après, est-ce qu'il en a besoin? Parce qu'on sait aussi faire avec ça des balles intelligentes, c'est-à-dire une fois qu'on a ciblé quelqu'un avec sa signature thermique, on n'a plus besoin de le viser, on tire comme ça, mais la balle va le trouver. Donc, ça sert aussi à ça, la technologie. Donc c'est vrai que ce serait dommage, c'est pour ça que je voulais reparler un petit peu là, ce serait dommage de s'arrêter aux nanoparticules et nanomatériaux, parce qu'on loupe l'essentiel en fait. C'est pas le plus drôle, mais bon. Alors, technologie de surveillance aussi, par exemple, ce qu'on appelle les scanners corporels, hein, on en a parlé à une époque, donc quand on les a implantés dans les aéroports, ils sont maintenant, qui voient à travers la matière, et qui sont arrêtés par l'eau en général. Donc on voit à travers les vêtements. Alors il y a soi-disant un logiciel qui fait que ça cache les parties intimes, pour que l'opérateur qui regarde son écran ne voit pas vos parties intimes. Mais ces dispositifs, ces caméras, vous pouvez les acheter sur internet, hein. Je ne sais pas si elles auront le logiciel ou pas. Moi quand j'étais gamin, on me disait, il y a des lunettes qui permettent de déshabiller, etc. Ça existe?
Non.
Non, pas aux lunettes encore.
Ah.
Non, non. Mais ça va venir. C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. C'est-à-dire la vision de Superman, elle sera à la portée de n'importe qui. Alors quand c'est Superman qui a cette vision, ben ça ne me dérange pas, c'est un super-héros, il est vachement gentil et tout. Mais si c'est n'importe qui peut avoir cette vision-là, ça pose problème. Parce que non seulement on voit à travers les vêtements, mais on voit à travers les murs. Hein, donc on peut imaginer aujourd'hui des voitures de police qui se promènent et qui voient chez vous.
Bah,
oui, entendre, c'est encore plus facile, parce que les fenêtres vibrent quand vous parlez, et il suffit de capter cette vibration et on sait ce que vous dites dans la pièce. En fait, c'est ce que disait Alex Turk, ce serait sympa, mais c'est Turk. Alex Turk, qui était le président de la CNIL, je crois qu'il l'est toujours bien, et il disait, dans les années 40, c'était encore possible la clandestinité, c'était encore possible de se réunir quelque part secrètement, et puis d'avoir des propos et de ne pas être écouté, tout ça, même si on ne savait pas qui était ou pas de la Stasi ou je ne sais pas quoi. C'est plus possible aujourd'hui. C'est pour ça que, quelque part, bon, j'en ai beaucoup discuté avec Jean-Pierre Zemandeuve, c'est un peu moi aussi qui leur ai dit qu'il fallait en faire son cheval de bataille de ces technologies de surveillance. Parce que c'est vrai que si on ne résiste pas maintenant, c'est trop tard. En fait, c'est déjà trop tard. Moi, mon premier débat sur les technologies à Paris, au cinéma La Clé, il y avait pas mal de monde. Et il y avait, avec moi qui faisait le débat, une représentante du ministère de la Recherche et de l'Industrie, et puis un des pontes du commissariat à l'énergie atomique. Et puis moi, mon premier débat. Super. Et à la question qui est posée inévitablement, que peut-on faire ? Moi, j'ai tout de suite dit, rien, c'est plié. Alors là, bien sûr, ils ont sursauté tous les deux. Mais non, faut pas dire ça. Vous pouvez interpeller vos députés. Non, c'est vrai qu'on est vraiment mal barré. Hein. Donc voilà, technologie de surveillance, tous azimuts. Et c'est déjà complètement enclenché, c'est là. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. Je m'explique. avant de continuer, il y a un autre aspect de ces technologies. On en parlait ce matin. Je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler à la radio. De toute façon, on ne peut jamais tout dire. C'est déjà le cas avec les biotechnologies. Et c'était déjà le cas avant avec l'informatique. C'est ce qu'on appelle la dissémination technologique. Ça donne les hackers hein, en informatique, hein, des gens qui sont capables de rentrer dans les programmes, de créer des virus, ou bien des chevaux de Troie, ou bien de casser des codes, briser un réseau Wi-Fi, ou de rentrer même dans le Patagon et compagnie, enfin donc chapeau. Aujourd'hui, on a les pirates du vivant, les biohackers, c'est-à-dire que c'est à la portée d'un lycéen, en fait, hein, de faire des OGM. Il ne faut pas grand-chose en termes de matériel. Quelques tupperware, une centrifugeuse, un ordinateur, et hop, c'est parti. Sans parler on en parlait tout à l'heure, de la biologie synthétique. Je ne pourrais pas tout dire. Biologie synthétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de l'ADN de synthèse. Vous pouvez commander sur Internet, mais c'était déjà le cas quand j'ai fait le film, j'ai choisi de ne pas en parler dans le film, parce qu'il y a trop de choses. On peut commander sur Internet, on envoie une séquence, alors en plus les séquences sont sur Internet, hein, on peut accéder à des banques de séquences ADN, par exemple du virus de la variole, de la grippe, de machin, et tout ça, sont sur Internet. Et on peut envoyer cette séquence. Pour l'instant, on ne peut pas envoyer des séquences très 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 longues et synthétiser des séquences très 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 longues. Hein. Un virus entier, ce n'est pas encore tout à fait accessible, mais des bouts de virus, oui. Et donc les envoyer à ces boîtes spécialisées, vous n'avez qu'à taper biologie synthétique, tout ça sur Internet, vous pouvez tout vérifier sur Internet. Hein. Le film est fait à partir d'Internet et invite le spectateur à tout vérifier. C'est-à-dire que c'est une des particularités du film, j'arrête pas de faire des parenthèses dans les parenthèses, et c'en est une dingue. C'est le principe de réalité dans mon film Internet. C'est vrai qu'on trouve de tout sur Internet. On trouve les pires conneries, surtout les pires cochonneries, mais aussi de la très bonne information. Et tout est là, tout est accessible. Hein. Vous pouvez vous documenter sur tout ça et vérifier mes propos ou poursuivre vos investigations. Mais ça, voilà, c'est rare qu'on. C'est peut-être la première fois qu'on montrait ça dans un film, le principe de réalité à partir d'Internet. Bref. On peut commander donc ces séquences, des séquences ADN sur Internet. Un journaliste britannique l'avait fait en 2004 en envoyant un bout de séquence du virus de la variole, mais un bout. Hein. Et il l'avait reçu 15 jours plus tard dans sa boîte aux lettres, donc sur un support de culture, des milliers d'exemplaires de sa séquence. La machine elle-même pour faire ça coûte 400 euros. Donc c'est pas cher. Et ça coûte quelques centimes la paire de base. La commande, donc c'est pas cher. Ça a des répercussions, hein, parce que par exemple, vous vous en souvenez, quand il y avait eu l'affaire de l'anthrax aux États-Unis, on avait fini par découvrir de quel laboratoire ça provenait, un laboratoire de l'armée américaine, donc terrorisme intérieur, etc. Là, il n'y a plus de traçabilité. On ne pourra pas dire d'où ça vient, ce sera pur. De la synthèse, donc on n'aura plus de... Alors, pourquoi je parlais de la biologie de synthèse Oui, pour les biohackers, la dissémination technologique. Bernadette Bassot de Vincent, dans le film, en parle un petit peu. Parce que donc, ce qu'elle fait au moment où elle était venue, c'est de dire à toutes les nanoparticules, les toxicités sanitaires et tout ça, on connaît. On connaît avec l'amiante, on connaît la pollution, on sait ce que c'est, on sait à quoi on a affaire. Par contre, avec les technologies de surveillance, là on arrive à de l'inédit dans la capacité à pouvoir surveiller vraiment de façon très intime tout le monde. Et on le sait de toute façon hein, que c'est en cours tout ça. La presse s'en fait l'écho quand même régulièrement. Il y a des affaires qui éclatent de toutes sortes qui sont intéressantes. Donc dans les aéroports, il y a aussi des couloirs intelligents. Oui, parce que les choses deviennent intelligentes en fait avec les technologies. C'est ça que nous, je sais pas, mais les choses autour de nous le deviennent. On appelle ça l'intelligence ambiante. Les objets intelligents, les objets sont connectés à Internet. Il y a l'Internet des objets. Il y a l'Internet des animaux. Les animaux aussi doivent être pucés, hein, on le sait, les éleveurs le savent. Les ovins d'abord, bovins, etc. Les chevaux, ça avait été les premiers. Les chiens, les chats, hein. Vous avez des boîtes gratos chez le vétérinaire si vous voulez les pucer. Vous êtes encouragé à le faire. Puis comme ça, la chatière, elle peut s'ouvrir seulement pour votre chat et pas pour les chats du voisin. Un sacré avantage. On peut le retrouver sur le père. Enfin. Les enfants, ça vaut le coup aussi hein, de les pucer. Je sais pas si vous l'avez fait. Parce que si vous les perdez sur la plage avec votre iPhone, vous pouvez les retrouver. Enfin, les patients dans les hôpitaux américains sont pucés systématiquement. Ouais. En Australie, les banquiers, etc., sont obligés d'être pucés. Enfin bref, de plus en plus de gens sont pucés. Je ne sais plus c'était quel gouvernement, l'Amérique du Sud, où ils avaient décidé de pucer tous les membres du gouvernement. Pour, bon,
ouais. Qu'est-ce qu'ils mettent comme argument pour pucer les jeunes ?
Eh bien, par exemple, voilà, les enfants, c'est en cas de risque d'enlèvement, ou de les perdre, hein, tout simplement, ou pouvoir savoir s'ils vont bien à l'école, ou autre chose comme ça.
Mais les banquiers ou les gens
Eh bien, la sécurité. Pour l'accès, l'accès à des, au coffre, tout ça. On va pucer en priorité ces gens-là. Après, il y a aussi. On parlait d'acceptation aussi, parce qu'il s'agit quand même de faire accepter tout ça hein, aux populations. Là aussi, Pièce des Manœuvres avait bien fait son boulot, mais ce n'était pas eux qui avaient levé le lièvre sur le livre bleu du Gixel. Le Gixel, c'était un regroupement d'entreprises dans l'électronique et tout ça qui s'était réuni pour dire bon, bah, comment on va faire accepter toutes ces technologies de surveillance, la biométrie, le puçage, les caméras de surveillance partout. Comment on va faire accepter ça aux populations? Alors il y a deux biais essentiellement. Le premier c'est dès le plus jeune âge, donc l'accès à la cantine par la forme de la main dans les bornes biométriques. Moi là où j'habite dans Cévennes, il y a eu une forte opposition dans les établissements de la part de certains profs un peu éclairés quand même, qui ont cassé ces bornes, enfin, qui ont fait venir des potes pour les casser. Et en fait les lycéens ont dit mais arrêtez de casser nos bornes. Enfin, bon. Donc dès le plus jeune âge, habituer les enfants à la biométrie et aussi l'aspect ludique dans les boîtes de nuit, l'accès au carré VIP et puis pouvoir payer ses consommations comme ça sans sortir de carte ni de sous en se faisant pucer, et que ce soit donc on sache. Voilà. Donc une fois que c'est accepté, de plus en plus accepté, après on passe vite au plus simple de tout le monde, puis c'est fait. Donc en sachant que tout ça passe par le réseau, par internet, que ce soit les animaux, que ce soit les objets, par les puces RFID, les gens. Il y a aussi, bon, on pourra dire des aspects plus positifs, hein, parce qu'on va, on va fabriquer maintenant des outils diagnostiques minuscules que les médecins pourront avoir chez eux. Ça va bientôt arriver, ça. Hein, c'est déjà au point, donc ça va être répandu hein, bientôt. Avec une goutte de sang, on pourra tout de suite faire une analyse très très poussée de votre état de santé. Donc ça c'est pas mal, même si le médecin a aucune compétence, il ne pourra pas se tromper pour une fois.
Vas-y. J'ai entendu parler aussi nos cartes de crédit qui sont pucées maintenant, sans qu'on nous prévienne, et on n'aura plus besoin
de faire le code.
De faire le code.
Oui.
Et que donc en passant devant certains trucs, même il y en a avec des petits programmes très simples, peuvent pirater nos cartes en passant à côté de notre sac ou de notre poche.
C'est le bon là.
Voilà.
Parce que, voilà, j'ai regardé ma carte et j'ai vu qu'effectivement, il y a une puce et qu'on m'avait pas prévenu.
Ouais. Alors c'est marrant, tout à l'heure, je suis allé acheter du tabac à Rodez, là, et la femme qui était devant moi a dit « Vous faites le paiement en Wi-Fi ?» parce que, ah non, il n'est pas équipé. Ah bon, parce que maintenant, pour moins de 20 euros, il n'y a plus besoin de faire le code pour la transaction. Donc c'est ça. Ça existe déjà, c'est fait. C'est là. Et ce que tu dis, c'est très intéressant. Toutes ces puces RFID, que ce soit les transpondeurs pour les animaux ou les puces RFID dans les objets ou n'importe, sont toutes en lecture-écriture. Il y a zéro protection. La puce du passeport biométrique qu'exige le gouvernement américain pour que vous puissiez rentrer sur le territoire est en lecture-écriture. À câble, piratable, à volonté, par n'importe qui. Sécurité, même pas nulle, négative. En fait. Des étudiants américains ont aussi démontré qu'on pouvait poser une bombe quelque part et attendre qu'il y ait 10 détenteurs d'un passeport américain pour la faire exploser. Donc voilà, trop de sécurité tue la sécurité. Hein. Moi, à la limite, je trouve ça plutôt bien. Enfin, je veux dire, dans le sens où... voilà, tout est dual, quoi, hein, tout est... Alors, ça me permet de revenir sur le côté dissémination technologique, hackers et tout ça, voilà, effectivement. Donc aujourd'hui, même dans des squats ou des lieux comme ça, je sais qu'on s'amuse à faire des biotech, pour, par exemple, se dépister soi-même sur une maladie héréditaire, voilà, c'est du jeu, hein. Mais il y a des gamins de 15 ans, là, récemment, qui ont mis au point, par exemple, des tests pour telle maladie qui coûtent beaucoup moins cher que ce que l'industrie faisait jusqu'à présent. Donc, moi, je trouve que cet aspect de dissémination technologique, réappropriation par n'importe qui de ces technologies, c'est plutôt un côté positif. Parce que ce que j'aime pas trop, moi, personnellement, c'est quand ce sont des sociétés qui monopolisent quelque chose, qui créent une technologie qu'on ne peut pas s'approprier. Là, pour moi, ça pose problème. Le brevet, le profit à outrance, tout ça. Mais quand, en fait, c'est détourné dans ses usages, que les gens peuvent se l'approprier et inventer de nouveaux usages ou fabriquer de nouvelles choses, là, peut-être, quelque part, ça peut devenir intéressant. Et ça va être la même chose avec les nanos. Et encore pire. C'est-à-dire que ça coûtera rien. La recherche coûte cher. Produire les cerveaux, ça coûte cher, qui vont faire la recherche. Le laboratoire P3, P4, ça coûte une fortune. Les microscopes à effet tunnel, etc., ça coûte cher. Donc produire la connaissance coûte cher. Mais ensuite, cette connaissance, une fois produite, sa mise en œuvre, parfois, peut ne rien coûter du tout. Il se peut que demain, on puisse fabriquer des ordinateurs 1000 fois plus puissants que ceux qu'on a, chacun dans son garage, avec ce qu'on aura sous la main. C'est possible. Donc, on ne sait pas dans quel monde on va, en fait. C'est pour ça que c'est vrai que ce que je dis, il y a des côtés effrayants, et bon, on sait quand même bien tous dans quelle société on est, hein, il n'y a pas à s'étonner de tout ça, mais l'avenir n'est pas écrit. Ça nous appartient encore de et aux jeunes, enfin, je veux dire, voilà, ceux qui vont apprendre tout ça et évoluer tout de suite dans ce monde-là, même si bon, moi je vois mes gamins, ils sont hyper consommateurs, mais il y en a qui ne le sont pas, qui sont quand même plus bricoleurs, plus curieux, plus inventifs, et qui... Bon, ils le sont aussi, mes gars, hein, je sais pas. Et donc, on ne sait pas vers où on va, en fait. Et ça me plaît bien. Donc, l'aspect de la dissémination technologique. Donc, oui, alors, d'un côté, on peut voir à travers les murs. D'un autre côté aussi, on est en train de fabriquer des métamatériaux, on les appelle, qui vont rendre invisibles des objets. C'est-à-dire que la lumière va glisser sur ces objets comme sur un rocher, l'eau sur un rocher dans la rivière. Ça passe là, ça se referme derrière. Donc, si on est en face de l'objet, la lumière le contourne, on ne voit pas l'objet. On fabrique ça même pour toutes les longueurs d'onde. C'est-à-dire que faire des objets indétectables. Il faudra bien qu'il y ait un trou dans les longueurs d'onde pour que cet objet puisse communiquer avec l'extérieur. Donc, il aura une vulnérabilité. Donc, il sera hackable. Donc. Ça, de toute façon, il n'y aura heureusement jamais une sécurité, un verrouillage complet des choses. Voilà. Je vais juste conclure là sur cette deuxième partie.
Ça fait un peu soirée science-fiction.
Hein. Désolé, mais ça n'est pas. Alors, il y a une bonne blague là-dessus. C'est qu'on racontait il y a quelques années, c'est que les auteurs de science-fiction avaient décidé de faire grève parce que la science dépassait complètement leurs travaux. C'est vrai que les choses qui avaient été fantasmées dans les années 50 par les auteurs de science-fiction se réalisent aujourd'hui. Je parlais de la vision de Superman. C'est pas un fantasme, c'est pas du délire. Ces caméras qui permettent de voir à travers les murs, etc., existent. Elles n'envoient aucune onde, hein, d'ailleurs. Hein. Elles ne sont absolument pas nocives. Hein. Vous ne pouvez pas dire « non, j'en veux pas » parce que ça peut être dangereux. C'est absolument pas dangereux. Ça capte des ondes qui sont intermédiaires entre les micro-ondes et les ondes visibles. Donc, ça fait que capter. Et c'est des capteurs qu'on savait théoriquement, ça. C'est juste qu'avec les nanotechnologies, ça ne coûte pas cher de les fabriquer. Vous pouvez en acheter, comme je vous disais, même il y a j'avais vu ça sur Internet, des gens qui les fabriquent, qui disent, vous êtes chef d'entreprise, prenez contact avec nous et on va réfléchir ensemble à quel usage vous allez pouvoir en faire. Alors, je parlais donc tout à l'heure de la convergence des technologies, tout ça, je vais finir là-dessus, pour la National Science Foundation, donc celle qui fait l'allocation des budgets aux États-Unis. Elle avait donc produit un rapport hein, qui a servi à Bill Clinton pour dire il faut investir massivement là-dedans parce qu'on va pouvoir faire des ordinateurs microscopiques, parce qu'on va pouvoir faire des matériaux légers et résistants, parce que ceci, cela. Leur rapport s'intitulait Converging Technologies for Improving Human Performance. C'est-à-dire la convergence des technologies pour améliorer les performances humaines. Donc là, il se trouve que l'auteur de ce rapport était ce qu'on appelle un transhumaniste. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces bestioles-là. Alors, ce sont des gens qui se disent que là où l'humanisme a échoué, la technologie va réussir à améliorer l'homme. Tu dis, on est en pleine science-fiction, blablabla. Enfin, le problème, c'est que ces gens, ils sont au pouvoir. Ces gens sont des gens de pouvoir. Ce sont eux qui participent à la décision des allocations de crédits pour les universités américaines, etc. Et donc, votre projet ne va pas dans le bon sens, on ne vous donne pas d'argent. Vous, oui, c'est intéressant, on vous donne de l'argent. Donc, c'est pour dire aussi, parce qu'on dit souvent la science c'est neutre, après tout, on laisse faire, et puis ça dépend de ce qu'on en fait. Non, la science elle est orientée, il y a des gens qui décident. Au-delà des chercheurs, si encore la science était autonome, que les chercheurs avaient une autonomie, ils pouvaient eux-mêmes décider des allocations, des budgets, des postes, tout ça, mais c'est pas le cas. Même ça poserait problème. Voilà. Mais en l'occurrence, il y a des financiers derrière, que ce soit les États ou que ce soit les industriels, et puis il y a des idéologues qui se promènent là-dedans, que ce soit Drexler dans les années 80. Ou comment il s'appelait déjà, donc ouais, j'en reviendrai, à la National Science Foundation. Donc cette idée du transhumanisme, elle se répand vite, mine de rien. C'est-à-dire qu'à l'époque, on interrogeait un chercheur français, il faisait des gros yeux. Non, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, même dans le Sud-Ouest, il y a pas longtemps, enfin il y a quelques temps, je lisais un article d'un neurologue, quelque chose, mais plutôt côté ingénierie quand même, qui disait il est inéluctable qu'on cherche à améliorer le cerveau humain. Même quelqu'un que moi j'estime par ailleurs vraiment. C'est le moment des trous de mémoire. Stephen Hawking. Il est impressionnant cet homme. Il était voué à être rien, je veux dire, il parle avec un... Enfin voilà, vous connaissez quoi, hein, il a une maladie neurologique grave qu'il avait, et c'est un des plus grands génies du virtuel en physique gravitationnelle, etc. C'est un équivalent d'Einstein, il occupe le poste de la chaire de Newton. Enfin, voilà. Ce mec-là est transhumaniste. C'est décevant. Je veux dire, il considère lui aussi que le monde est devenu tellement compliqué qu'il va être nécessaire de booster le cerveau humain de sorte qu'il puisse faire face à cette complexification du monde. C'est dommage quand même.
Et ça veut dire après qui est-ce qu'on va choisir pour développer
Alors après il y a plein de voies hein, pour le faire, hein. Il y a la voie chimique. Moi je sais que je sais presque d'expérience, mais c'est délicat à raconter, mais bref, en tout cas depuis la première guerre d'Irak, il y a des nanodrogues. Alors l'avantage des nanodrogues, hein, c'est comme pour le cancer, hein, on cible la cellule, machin, tout ça, et on ne va pas attaquer les cellules saines, mais que les cellules malades. Là c'est pareil, hein, la nanodrogue, elle va agir sur les neurotransmetteurs précisément sur lesquels il faut agir, et pas sur d'autres. Et elle permet aux fantassins, aux soldats, de rester réveillés pendant 4 jours, 5 jours d'affilée, mais de pourtant pas être empêché de dormir. Il peut aller dormir, il dort. Il se réveille, il n'a même pas besoin d'un café ou d'une clope. Tout va bien, il est tout de suite opérationnel. Il est au top de ses capacités cognitives et il n'a aucune altération de la personnalité. Parce que quand on faisait des expériences au LSD sur les soldats au Vietnam, je pense que ça... Mais là, c'est plus le cas. C'est efficace maintenant. Donc, il y a la voie chimique hein, donc, pour ça. Il y a aussi la voie de l'implant. Hein. Il existe des centaines de variétés d'implants neurologiques, hein, connexion puce système nerveux. Il en existe déjà des centaines de variétés, que ce soit pour empêcher une crise d'épilepsie, ou il y a aussi les implants contraceptifs. Voilà, on fait énormément d'implants, donc c'est aussi une voie pour l'amélioration de l'humain.
Redonner la vue à des aveugles.
Voilà, redonner la vue à des aveugles, augmenter la mémoire. Mais au-delà de donner la vue à des aveugles, on peut imaginer permettre de voir dans l'infrarouge ou l'ultraviolet ou n'importe, ça peut avoir une utilité. On va aller tous azimuts. Par exemple, dans le film, on voit un moment aussi un gars qui a des bras artificiels. C'est un électricien, il a été électrocuté, on perd les extrémités, toutes. Là, les bras, donc. Donc il a des bras artificiels qui commandent par la pensée. On le voit dans le film, il apprend hein, à serrer la main, à remettre son bras bien et tout ça. En l'occurrence, il a en quelque sorte un vieux bras artificiel, c'est-à-dire les muscles artificiels qu'on était capable de faire, qu'on a fait pour les robots par exemple dans l'industrie et tout ça, ils sont 100 fois plus longs que nos muscles naturels. Mais avec les nanotubes de carbone, ça y est, on sait, expérimentalement, ça coûte une fortune pour l'instant, hein, mais ça va très vite, la dégressivité des prix, hein, comme j'en ai donné un indice tout à l'heure, mais on sait faire des muscles 1000 fois plus rapides que les muscles humains.
Il va pouvoir donner des coups de poing maintenant.
Il pourra en donner 1000 à la seconde, quoi. C'est Matrix. Et donc c'est de la science-fiction encore quelque part pour l'instant, mais ça va pas durer. Il y aura bien un jour où des gens se feront amputer rien que pour pouvoir avoir ce genre de bras. Quels vont devenir les Jeux Olympiques, je sais pas quoi, mais dès 2008.
Que les Paralympiques.
Et ouais, il y a le cas de ce coureur grec, la
Pistorius,
qui voulait courir avec les valides. Ça lui a été refusé. Parce qu'il gagnait. Effectivement, ça va être beaucoup plus intéressant de voir les Jeux paralympiques que les Jeux avec les gens normaux. En 2008, déjà, c'était acté dans Le Monde, j'avais lu cet article qui disait on doit considérer qu'il peut y avoir aujourd'hui des athlètes génétiquement modifiés. On ne pourra jamais le savoir. On ne peut pas le savoir parce qu'il faudrait faire des biopsies pendant toute la carrière du bonhomme, des prélèvements musculaires, etc., pour pouvoir dire, là, il y a une modification ou pas. Donc, comme on ne va pas faire ça sur un athlète, le CIO a déjà décidé, on accepte l'idée qu'il puisse y avoir des athlètes génétiquement modifiés.
On n'arrête pas les Jeux Olympiques.
Ben non. On n'arrête pas la guerre, hein, donc on ne va pas arrêter les Olympiques. Donc,
ça fait
aussi partie des voies.
On a arrêté la guerre à cause des Jeux Olympiques, justement, grâce à Athènes.
C'était pour annoncer. C'était le marathon, ça. C'était pour annoncer la victoire.
Les Jeux Olympiques servaient aussi. Enfin, servaient. Il y avait une conséquence, c'était l'arrêt de la guerre entre Sparte et Athènes pendant la période olympique.
La trêve olympique.
La trêve, d'ailleurs, on en parle toujours.
Oui, on ne la fait pas trop, mais on l'a fait.
Oui, c'est ça, oui.
Il y a des professeurs de biologie aux États-Unis, je sais, qui disent à leurs étudiants en première année, demain il y aura des gens qui auront des gènes pauvres et des gens qui auront des gènes riches. On va pouvoir modifier la lignée germinale et il se peut qu'on fabrique une espèce qui pourra même plus se reproduire avec les humains naturels. Voilà. C'est aussi vers ça que ça va les convergences des technologies.
Ça marche avec les portefeuilles,
bien sûr.
Les gènes pauvres.
Oui, ça marche avec les portefeuilles, bien sûr. Qui aura les moyens ou pas. Je voulais juste faire cette deuxième partie là pour qu'on pense pas que c'est juste des nanoparticules, des nanomatériaux avec les risques de sanitaires et environnementaux. Ça va beaucoup plus loin. Hein. Il y a des projets derrière qui nous engagent lourdement, qui engagent le vivre ensemble, qui engagent l'identité. Et qui sont lourdes de conséquences.
Mais le film le montre, hein.
Oui,
le film montre, je me rappelle, à un moment donné, je ne sais pas si dans ton film, là, on voit un Américain qui explique tout ça, et qui, pendant qu'il parle, ça dure peut-être une minute, deux minutes, trois minutes, peut-être plus, un bel homme, là, il ne cligne pas les yeux une seule fois.
Non, c'est pas dans mon film, mais oui, je connais.
J'ai dit, mais c'est pas dans le tien. Bon, et j'ai dit, il y a quelque chose qui...
Il est là.
Bon, voilà. Est-ce qu'ils sont traités à quelque chose, ces gens-là? J'en sais foutre rien, mais je me disais, il est... Mais la normalité, c'est quoi aussi? Est-ce que c'est de cligner les yeux? Est-ce que c'est de bouger le point en 5 secondes, minutes, heures? Nous, on estime ça. Mais c'est peut-être pas ça, l'être humain. Pourquoi on n'irait pas vers des choses plus performantes, si on le demande?
Oui, bien sûr.
La société le demande, en tout cas.
La société, mais...
C'est plus de performance.
Oui, moi, je ce que je retiens, entre autres, de ce que vous avez dit, c'est qu'en même temps, vous êtes philosophe. Hein. La question que je me pose, moi, c'est... Je me demande si depuis peut-être les années 70, la pensée philosophique n'est pas captée par le progrès... technique qui arrive, et il me semble qu'il y a un déficit de la pensée sur l'homme. Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais je pense à la sortie de la guerre, il y avait des types comme Camus, par exemple, ou Malraux, ou des mecs comme ça, qui avaient une idée de l'homme, qui avaient une idée qui n'était pas sujette à la technologie, c'était une idée indépendante de l'homme, il y avait une idée de liberté derrière tout ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette espèce de grand débat et de grandes questions est laissé de côté. On entend, je ne sais pas, on entend beaucoup moins ce genre de truc. Et c'est, alors par contre, comme si les progrès de la science avaient phagocyté cette partie-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, comme philosophe, mais je pensais à un truc de Malraux qui avait dit, je crois que c'est Malraux qui avait dit, permettre à l'homme de découvrir la grandeur qu'il a en lui et qu'il ignore. Je crois que c'est Malraux qui avait dit un truc comme ça. Et j'ai l'impression que ce territoire qu'il présentait est complètement en jachère aujourd'hui. Par contre, ce qui est la recherche intellectuelle, pas la recherche intellectuelle, la recherche scientifique, mécanique et matérialiste, quelque part, alors là, ça prend tout le champ. Et alors que l'autre, elle a été abandonnée d'une certaine manière. Enfin, je le dis un peu comme je peux. Par exemple, il y a un truc qui a vachement baissé, c'est par exemple, moi j'y vois lié la poésie, par exemple. La poésie, aujourd'hui, personne ne s'en occupe. Je crois que ça, c'était des parties de l'homme noble, on va dire, qui sont complètement... Du coup, voilà ma question, philosophe.
Oui, oui, oui. Bon, d'abord, philosophe, c'est gentil, mais j'ai une formation en philosophie. Je suis passionné par la philosophie, mais je ne me considère pas comme philosophe. Hein. Je n'ai jamais produit d'ouvrage de philosophie, ni même fait de thèse en philosophie. Hein. C'est pas un truc. Moi, j'ai toujours voulu faire des films, donc déjà pour dire ça... Mais je crois que tu as en partie raison. Jean-Pierre Dupuis, dans le film, il dit... bon, c'est un peu compliqué tout son argumentaire au préalable, mais en gros, à partir du moment où on a réduit l'esprit à un algorithme, c'est la première chose qu'on a faite. Qu'on considère à peu près l'homme comme équivalent à une machine, la biologie, on va dire, on parle de machine moléculaire pour parler des éléments du vivant. À partir du moment où on fait ce parallèle entre machine artificielle, machine naturelle, l'éthique perd de son sens. Parce qu'il n'y a pas d'éthique pour la machine. Donc, si on considère l'homme comme une machine, il n'y a plus de question d'éthique. C'est vrai. Mais de la même manière que dans notre société, on peut dire qu'on peut regretter une dépolitisation, qui est le projet libéral, de la même manière, il y a une déshumanisation. Ça va de pair. L'homme est un animal politique. Donc, si on lui retire ça... Et quand tu parles de la poésie, c'est pareil. Des êtres de langage. C'est vrai que si on n'a plus d'attention au langage, on perd une part essentielle de ce qui fait notre humanité. Ouais, c'est évident. C'est évident que ce sont des choses qui se perdent. Maintenant, ce sont des choses qui ne sont pas complètement perdues, j'espère. Quoi, qu'on a encore...
Oui, c'est parce que ce territoire recule que l'autre il y en aura encore plus. Quoi.
Mmh. Et on se fait des millénaires qu'on sélectionne les plus cons, quoi. Les plus méchants, les plus. Donc, c'est vrai.
Mais, tu me citais quelque chose d'approchement pour le dialogue. Tu me citais cette possibilité qu'on aurait à faire communiquer les animaux par le biais des technologies. De donner du langage à l'animal qui n'en ont pas.
Tu parlais des rats, c'est ça ?
Oui. Et pourquoi il n'y aurait que nous qui aurions le langage poétique ou con ou philosophique ? Et pourquoi on ne pourrait pas donner à des animaux, et tu me citais quelque chose qui pourrait aller vers ça, la même chose que nous ?
Alors le danger, c'est que on risque d'être beaucoup plus capté par l'intérêt pour écouter une souris nous parler, mais est-ce que ça va développer notre capacité à nous
d'écouter nos enfants,
à devenir des gens de relation ? Ça, je ne suis pas sûr. On va être capté par la performance que ça a, mais est-ce que ça va nous grandir à nous ? Ça, je ne pense pas. Ça,
faut essayer.
Je vois le phénomène, mais si tu veux, voilà un truc que je pense. Quand on regarde la Tour Eiffel, on est ébloui par la Tour Eiffel, sur le moment. Mais est-ce qu'on est changé par la Tour Eiffel ? On n'est pas agrandi par le fait de voir ce truc. On est ébahi pendant 5 minutes, ah, putain, c'est vachement haut. Mais on n'est pas modifié personnellement. C'est autre chose qui grandit l'homme, enfin, qui grandit notre espace à l'intérieur, on pourrait dire. Et ça, je pense que ce truc-là est vachement reculé aujourd'hui.
Voilà. Non, je crois que t'as raison.
Et du coup, les trucs scientifiques de matérialisme, machin, ça rentre vachement dedans. On a un appauvrissement intérieur, quelque part, je pourrais dire ça.
Mais ça, c'est plus la télé qui nous bouffe que le reste. Pour ajouter au langage des bêtes, dans nos jours, je pense que personne ne se soucie de ces choses-là quand on voit comment on élève les vaches. Par contre, les grands-parents, quand ils utilisaient les vaches pour travailler, ils ne parlaient pas le même langage. Mais quand ils se regardaient et qu'ils donnaient des ordres par mimétisme, par la position du corps et par y être grandi dedans, il y avait le langage. Il y est, naturellement. Il n'y a pas besoin d'aller inventer une saloperie.
Ouais. Non, non, c'est sûr
que... peut-être aussi les vaches d'Ukraine, quoi. Ils ont oui, bien sûr, parler de ça. Il y a qu'à les refaire pour voir qu'il y a des rapports sociaux dans un troupeau normal de petite taille. Qu'il y a...
Moi, je voulais revenir juste à ce fameux steak sans viande.
Oui.
Donc, je voulais voir justement s'il y a les...
Non, c'est des biotechnologies, ça. Mais oui, enfin... Moi, de toute façon, j'ai pas envie de dire, voilà, il y a les nanos et il n'y a rien d'autre autour. Attention, moi, ce qui m'interroge, c'est la technique en général. C'est pas les nanotechnologies en particulier. Hein, donc oui, le steak artificiel, la viande artificielle... Mais je sais pas si ça met en branle les nanos. En fait, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de laboratoire de champ de recherche où on n'envisage pas les choses à cette échelle-là. Simplement, on a les moyens maintenant de regarder la matière à cette échelle. Même quand on s'intéresse par exemple aux déchets nucléaires, on regarde à cette échelle-là pour voir qu'est-ce qui se passe à l'échelle nanométrique dans la survie des bétons, des centrales, des choses comme ça. Maintenant, dans tous les champs de recherche, il y a une dimension nano qui est prise en compte. Et les nanotechnologies font faire des bons colossaux à la biologie, aux biotechnologies. En fait, il y a cette convergence, c'est aussi un effet d'entraînement. Plus les puissances de calcul sont élevées,
plus les biotechnologies et les nanotechnologies en tirent profit, plus on fait des progrès dans les capacités de calcul, etc. Il y a un entraînement mutuel de différents champs de recherche qui fait cet effet d'accélération aussi. Oui.
Tout à l'heure, tu parlais d'organes de régulation. Il y a des organes de régulation, il y a des lois autour de ça ou pas ?
Alors, non, pas beaucoup. Hein. je parlais tout à l'heure d'une norme ISO et quelques qui a commencé à être créée, 9606, je crois. Elle est loin d'être achevée. Peut-être en 2018 ou par là, elle commencera à peu près à avoir fait le tour de la question, mais c'est pas sûr. Sur les nanoparticules, hein, la caractérisation des nanoparticules et donc des nanotechnologies associées. Pour ce qui est de la régulation, on connaît le protocole REACH hein, au niveau européen sur les produits chimiques. Ça ne prend pas en compte les nanomatériaux. Et même en fait, quand c'est sorti, ce protocole, moi j'avais coutume de dire bah, c'est super, donc les industriels doivent faire les études pour démontrer l'innocuité ou la dangerosité des matériaux qu'ils utilisent. Si jamais c'est dangereux, ils ont un délai pour le remplacer. Et ils ont déjà de quoi le remplacer parce qu'il y a les nanotechnologies qui arrivent. Et que les nanotechnologies ne sont pas prises en compte par le protocole REACH. Aujourd'hui, il y a des gens qui... Parce que c'est une question de tonnage, en fait. Hein. Par exemple, les industriels font en sorte de ne pas produire le tonnage qui déclencherait REACH, par exemple, au niveau de chaque nanoparticule. Du coup, ils restent en deçà. Hein, en dessous de, je ne sais pas, quelques milliers de tonnes, on ne prend pas en compte le produit en question dans REACH. Donc tant qu'on reste en dessous, on est... maintenant, il y a des gens qui poussent, hein, au Parlement ou ailleurs, pour baisser ça et qu'on prenne en compte aussi les nanoparticules, nanomatériaux dans REACH. Parce que c'est le seul outil de régulation qui existerait là-dessus. Par contre, après, sur d'autres aspects, on pourrait dire... juridique, c'est-à-dire que la CNIL n'arrête pas de dire qu'elle est dépassée. Elle est complètement dépassée par tout ce qui se passe. Ils ne sont pas nombreux, ils n'ont pas de thunes pour pouvoir faire face. Bon, je dis, pas assez de budget pour faire face à toutes les demandes d'autorisation qui sont mises sur leur bureau. Oui, je crois que le juridique est régulièrement pris de vitesse. Par le développement technologique, c'est même le cas aussi dans les OGM, par exemple, on invente, c'est même pas les anti-OGM qui inventent le mot OGM, c'est Monsanto. Donc aujourd'hui, on peut faire des OGM qui n'auront pas l'appellation OGM, donc qui ne rentreront pas, c'est simplement le fait par exemple de soumettre des graines à des radiations qui vont causer des mutations, qui ensuite sélectionner ces mutations, c'est pas un OGM. Donc voilà, on trouve les industriels. Est-ce que c'est par volonté de quand même mettre sur le marché ce genre de trucs ? Bien sûr, trouvent des biais pour contourner, devancer, éviter les éventuelles réglementations ou régulations qui existent, qui pourraient exister, malheureusement.
Est-ce que vous avez des informations sur les supraconducteurs ?
Bon, pas plus que ça. D'abord, ça ne concerne pas spécialement une nano. Mais quel type d'information, en fait ?
Je ne sais pas. Parce qu'à un moment, c'était la grande vogue d'en entendre parler, puis maintenant, on n'entend plus tellement parler.
Il y a tout le temps des modes comme ça. Hein. Il n'y a pas longtemps, on parlait beaucoup des piles à combustible, qui étaient une vieille technologie, et on pensait que ça allait être vraiment quelque chose qui allait permettre de produire de l'énergie pour pas cher. Ils ont mis plein d'argent là-dedans, un peu partout pour ça, puis finalement ils se rendent compte que bah non, il n'y aura pas de possibilité de faire de l'énergie pas chère par ce biais-là. Il y a des modes en sciences, en technique comme ailleurs. Hein. Et je pense qu'il y a des usages en supraconducteur, comme il y en a au plus à combustible, de toute façon.
Chemtrail, c'est une vaste connerie ou c'est une vraie question ?
C'est les deux à la fois. C'est tout à l'heure j'en parlais hein, de dépendre des nanoparticules dioxyde de soufre, voilà, du nanodioxyde de soufre dans la stratosphère pour réfléchir davantage les rayons du soleil, c'est les chemtrails. Hein.
Par contre, le qui est de l'épandage, qui envoie des substances qui contrôleraient les populations, je ne sais pas quoi, je pense qu'on rejoint un peu les théories du complot, invérifiables, et puis... Bon, je rentre difficilement dans ce truc-là, quoi.
Sur les superconducteurs, je pense qu'il y a des recherches qui se font dans le cadre unitaire. Mmh. Il me semble.
De toute façon, les recherches se font toujours dans le cadre de l'annihilation des pertes énergétiques électriques. Donc, chaque fois qu'on a besoin d'une énorme quantité d'énergie électrique, on se dit « Ah, il faudrait peut-être penser effectivement à un supraconducteur ». Et donc, avec le développement d'ITER, par exemple, il va y avoir de nouveau ITER, c'est le contrôle de la... De la fusion nucléaire qui se passe entre Marseille et Saint-Provence et Salon, là, c'est sûr que là, il va y avoir de la. Sur le laser mégajoule aussi, qui est en fonction sur. La base de Cazaux en Gironde, il y a aussi des. Il y a aussi de la. De la supraconductivité qui est un essai. Dans la distribution des réseaux, ça a été. C'est dans le calme absolu à l'heure actuelle. Hein, ça coûte trop cher vis-à-vis des gains par rapport aux pertes d'énergie, dans le transport de l'énergie. Voilà. Mmh. Et là, non.
Moi, je crois que l'énergie, de toute façon, ça va être un peu, ça va être un peu le problème. C'est pas évident qu'il y ait moyen de remplacer les énergies fossiles. Enfin, il est probable que notre consommation énergétique qui s'accroît tout le temps, puis en plus avec la Chine, l'Inde et les BRICS et compagnie, il y a de bonnes chances que ce soit ça qui à la fin freine notre développement, que ce soit l'énergie.
Et justement, pour produire des nanoparticules, il faut d'énergie ou pas beaucoup d'énergie?
Alors, on pose par exemple cette question, on pose aussi sur est-ce que c'est polluant ou pas et tout. Il semble, bon, parce qu'il y a quand même une grande opacité, hein, les industriels ne sont pas sommés ne donnent pas leur protocole de production, etc. Il y a quand même une opacité fondamentale dans notre société sur tout ça. Mais a priori, c'est très polluant. Très polluant, ça peut être énergivore, c'est pas une panacée là non plus. En tout cas, quand c'est fait de manière industrielle, à grande échelle. Ça me faisait penser à un truc même. Je sais pas. En tout cas, c'est polluant, ça on le sait à peu près. Ça utilise des. Enfin voilà, il y a utilisation de solvants, il y a dissémination de nanoproduits dans les évacués, qui sont pas filtrables, de toute façon c'est trop petit, c'est pas facile de filtrer les nanoparticules. Donc ouais, je pense que c'est pas neutre en tout cas en consommation énergétique.
Et les atomes d'origine proviennent
d'où? Par exemple pour le nanotube de carbone, c'est du graphène, du graphite, c'est les mines de crayon quoi en quelque sorte. Quoi. C'est d'autres formes du carbone qui sont mises à contribution pour produire ça. Mais en tout cas, il s'applique à faire chaque usine, chaque nouvelle usine qui produit des nanotubes de carbone, donc je crois qu'il y en a 4-5 en France, il y en a en Belgique, chaque nouvelle usine coûte moins cher, produit pour moins cher, et de manière plus simple, etc. Donc, parce que le but, c'est vraiment de faire baisser le coût du matériau. Donc il y a à chaque fois un progrès dans la production.
La question, c'est des produits issus de la Terre? Parce que tu...
Alors, par exemple, ils ne donnent pas de détails, mais donc c'est Arkema qui a fait une usine récemment de nanotubes de carbone dans les Pyrénées et qui dit qu'ils utilisent une ressource bio-renouvelable. Bio
voyant.
Ouais, ils utilisent parce que du carbone, il y en a partout, quoi. Hein, donc ils utilisent peut-être du bois, ça. Ils utilisent une ressource biologique.
Il faudrait qu'ils utilisent le CO2, ce serait idéal.
Oui, mais c'est pas inenvisageable. Ils veulent, en fait, hein, leur rêve, c'est quand même d'enclencher des cercles vertueux, hein, soi-disant. Enfin, le rêve de Drexler, par exemple,
c'est d'enclencher des cercles vertueux plutôt que les cercles vicieux qu'on connaît depuis le début de l'industrialisation. Ce serait d'enclencher des cercles vertueux où plus on produit, moins ça coûte cher, plus c'est économique en énergie, etc. D'arriver à renverser le truc et de faire des cercles, non pas vicieux, mais vertueux. Donc c'est la voie qu'ils disent qu'ils poursuivent. Et donc, bah, par exemple, peut-être faire d'une pierre deux coups, absorber du CO2, fabriquer des nanotubes de carbone par la même occasion. Avec des bactéries synthétiques qui seraient à l'ouvrage. Pourquoi pas, hein? Vraiment, pourquoi pas?
Dans les Pyrénées, tu disais l'usine, elle se trouve à la Nemezan, à Lac.
Lac.
À Lac.
Oui, c'est ça. Merci.
C'est le pôle chimique.
Voilà, le gros pôle chimique, là. Incroyable.
Issu de la nature, puisque c'était un gisement de gaz hyper soufré qui nous a fait premier producteur au monde de soufre pendant une dizaine d'années.
Oui, ouais, Arkema a installé son usine là-bas. Oui. Arkema, qui est une sous-filiale de Total, je crois.
Oui, de Total.
C'est ce que je trouve dangereux dans cette démarche, c'est de cette croyance que la technique peut résoudre tous les problèmes.
Ça, c'est clair. Hein,
les problèmes qu'on crée nous-mêmes, le truc avec les abeilles qu'on remplace par des micro-abeilles. On a des animaux qui le font tout seuls. Non, il faut les tuer, il faut inventer des robots.
Ouais, c'est comme pour la géo-ingénierie, quoi. On va toujours trouver une solution au problème qui se pose, une solution technique, qui en plus va être l'occasion de nouveaux profits. Ouais.
Et de perte de liberté par la même occasion.
Aussi.
Puisque ça se paye, la technologie, oui, l'autonomie.
L'autonomie pour chacun d'entre nous, pour nos communautés.
Voilà. Oui.
Ah, les ruches qui sont transportées pour féconder, ça se paye aussi. Hein.
Oui, puisqu'il y a certains défauts qui ont été mis en place par l'homme qui font qu'il faut transporter des ruches dans des vergers pour être sûr que ce verger soit fécondé. Si on n'avait pas utilisé les pesticides dans ce verger, peut-être que on n'aurait pas eu besoin d'y mettre spécialement des ruches, elles y auraient été naturellement.
Moi, ce que j'ai l'impression d'observer avec l'effondrement des colonies d'abeilles, c'est qu'il y a une recrudescence de d'autres insectes pollinisateurs. Ce que j'observe personnellement, mais j'ai eu...
Bon, ouais.
Recrudescence, ouais. Une augmentation. Ouais. La nature ayant horreur du vide, en quelque sorte, quoi. Il y a des syrphes en plus grand nombre, il y a les grosses... ancêtres des abeilles, là, toutes bleues.
Les bourdons noirs, là.
Ouais.
Les
bleus, voilà, noirs, on en voit plus.
L'abeille charpentière.
Voilà, j'ai l'impression.
L'abeille charpentière,
voilà. C'est ça. J'ai l'impression qu'on voit plus de certains insectes qui sont aussi des insectes pollinisateurs qui, peut-être, subissaient la pression de l'abeille. Voilà. Je dis pas ça parce que, genre, bon, on s'en fout, c'est pas grave, il n'y a plus d'abeilles. Non, mais on a créé des abeilles qui sont très fragiles, assez homogènes au niveau génétique, qui du coup, sont très fragiles, quoi. Voilà, génétiquement parlant, quoi. On n'a plus beaucoup de réserves pour faire face, c'est comme le blé, qui a plus de réserves, on a tellement fait évoluer qu'il n'a plus de réserves pour faire face à des problèmes. Il manque d'ADN de réserve, en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de notes d'espoir dans ce que j'ai dit, moi je vous engage en tout cas à pas rester sur ce que j'ai dit, mais à maintenant avoir peut-être une oreille, un œil attentif sur ces questions, à repérer dans la presse, même quotidienne, même locale, il y a des choses à repérer là-dedans qui en disent long sur ce qui est en train de se passer. Voilà, parce que déjà s'informer, en parler et faire débat, je crois que c'est déjà une action politique pour résister. Voilà, je crois que l'avenir n'est pas écrit, quoi.
Et merci beaucoup.